Ambassadeur Ray, vous êtes le président du groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti. Haïti, dont le Premier ministre a récemment demandé à la communauté internationale un appui en matière de sécurité, la mise en place d'une force multinationale de soutien à la sécurité et qui serait au chapitre 7. Alors, une force internationale est sous chapitre 7, mais pas une force de l'ONU. Quelle va être l'articulation entre l'ONU et cette force?
Ben, c'est clair que Binou est déjà là. L'ONU a une histoire très importante en Haïti et ça va continuer. On va naturellement, tout le monde va travailler ensemble, il faut avoir une coopération intense entre tous ceux qui sont dans la région. Aussi, il faut comprendre que ce n'est pas une mission traditionnelle pour le maintien de la paix, c'est une mission sur la sécurité, la situation sécuritaire. On est en train de battre contre des gangsters, contre les gangs, qui ont un rôle absolument primordial maintenant en Haïti. Et c'est ça qu'il faut faire face à ça. C'est compliqué. Ça va exiger une coopération intense avec tout le monde. Alors, c'est ce qu'on va voir.
Lors de notre dernier entretien, en fin juin, vous avez indiqué que l'on n'en savait pas assez sur l'identité de ces gangs et sur leur fonctionnement, la manière dont ils opéraient afin de déployer une force internationale. Alors, cette situation a-t-elle changé? Savons-nous l'identité de ces gangs, la manière dont ils opèrent aujourd'hui? Que pouvez-vous nous dire sur ces gangs?
Moi, je dirais qu'on est beaucoup mieux informés. Et puis, il faut considérer le fait que la nature de la force que nous allons introduire a changé. Alors, ça veut dire que effectivement, nous avons pris du temps pour apprendre mieux exactement quelle sorte de force et comment ça peut agir pour appuyer la police nationale haïtienne. Et c'est ça que nous allons discuter de plus en plus après le passage de la résolution.
Et qui sont ces gangs? D'où tirent-ils leur financement? Et oui, qui sont-ils?
Eh bien, ce sont des gangs qui sont surtout en place à Port-au-Prince. Ce sont des gangs qui, au commencement, ou disons, dans la structure sociale d'Haïti, ils avaient des liens très proches avec le leadership, l'élite politique et économique du pays. Mais de plus en plus, les gangs sont devenus des forces indépendantes. Ils financent, ils sont financés par le kidnapping, ils sont financés par le trafic de drogue, etc. Alors, c'est très, très clair que ce sont des forces à la fois économiques et sociales qui ont une présence très négative dans le pays, qui causent toutes sortes de violences, des meurtres, des choses terribles. Et ce sont des gangs qui sont très, très violents. Mais en même temps, ce sont des gangs qui ont une relation très proche avec des jeunes qui ont moins de 18 ans. Alors, il faut comprendre que ce sont des forces sociales, qu'il faut comprendre mieux exactement comment des criminels marchent. Mais c'est pourquoi j'ai dit avant, et je le pense toujours, qu'une intervention traditionnelle pour le maintien de la paix ne marcherait pas en Haïti. Et c'est pourquoi nous avons insisté sur une intervention différente.
Les Kenyans, justement, se sont proposés pour mener l'initiative et l'appui que vous décrivez donc en tant qu'appui à la police nationale plutôt qu'une force en tant que telle. Ont-ils une expérience spécifique en matière de gang, justement?
Nous allons assurer que toutes les forces qui sont là sont bien formées, qu'il y aura une formation importante. Une des choses que le Canada est en train de faire toujours avec d'autres pays, c'est de continuer nos efforts pour appuyer la formation du PNH. Et ça continue, on va continuer avec ça. Et naturellement, le Kenya ne sera pas seul. Il y a beaucoup de pays de la région qui sont prêts à aller pour appuyer la mission. Et cet effort va continuer.
La dernière fois qu'une force internationale a été créée et s'est rendue en Haïti, c'était sous la MINUSTA. Et c'est les Brésiliens qui avaient pris le devant. Est-ce qu'ils vont partager justement leurs leçons apprises, leurs notes avec les forces qui vont se diriger vers Haïti maintenant?
Oui, naturellement. Il y a beaucoup de pays dans les déclarations qu'ils ont faites depuis quelques jours déjà. Ils ont dit clairement qu'ils vont continuer avec l'effort d'insister sur l'importance d'apprendre de notre histoire dans le pays et d'insister de la nécessité de partager l'expérience que nous avons eue dans le passé et d'assurer que notre intervention va réussir. Le focus doit être sur le succès des missions et c'est ça que nous voulons assurer.
par rapport à la force, il y a des inquiétudes qui ont été exprimées quant à la capacité ou à la tendance des forces kenyanes à respecter les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des garanties qui ont été mises en place ou quelle est votre réaction à ces inquiétudes?
Écoute, il faut que n'importe quelle force venant de n'importe quel pays respecte la loi internationale dans tout le travail qu'ils font. Mais il faut aussi comprendre qu'on est en train de faire face à des gangs qui utilisent des moyens absolument horribles face à la situation humanitaire. Et je crois que la préoccupation des gens devrait avoir un focus sur le problème des gangsters. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante.
Ouais, c'est des viols, c'est des violences vraiment aberrantes.
Voilà, des viols, des meurtres, des kidnappings, tout ça. Une violence extraordinaire. Aucun respect pour les droits humains des femmes ou des garçons et des filles. C'est terrible. Et c'est ça qu'il faut dire. Il faut regarder la situation comme il est. C'est pas beau. La situation est très difficile. Ce n'est pas une intervention qui va aller facilement. C'est pas facile à faire. Il faut reconnaître la nature du problème.
Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Dernière question. Le Premier ministre Henry a souligné donc que l'usage de la force préalable était nécessaire, mais insuffisant. Il prône et souligne justement qu'il faut un dialogue et de l'aide au développement qui soit socio-économique pour vraiment aider Haïti à franchir cette étape. Alors, comment est-ce que la communauté internationale va assurer ce volet de l'appui à Haïti?
Le problème que nous avons, mais écoute, le gouvernement d'Haïti peut faire plus pour assurer fin à la corruption, pour assurer un consensus politique beaucoup plus large et pour assurer qu'ils sont en train de créer une route claire pour les élections et la vie démocratique dans le pays. Par exemple, je peux vous dire que la Banque internationale de développement, la Banque mondiale, ils sont tous prêts à faire des investissements, mais il faut et absolument nécessaire d'avoir des changements et des améliorations dans la façon dans laquelle l'Haïti dirige les affaires. Ça, c'est essentiel. Alors, il faut comprendre ça, il faut être honnête et franc sur le problème et sur la nécessité d'avoir non seulement des investissements qui viennent d'ailleurs, mais aussi des changements essentiels, des changements au sein du pays. Tout le monde, je dirais, tout le monde peut faire mieux. Et c'est ça qui est essentiel de reconnaître.
Merci beaucoup. Est-ce que les agences humanitaires et de développement vont travailler en coordination, justement? Est-ce que ça va être articulé en parallèle avec le Conseil de sécurité ou c'est différent?
J'espère que oui. Je crois que c'était le consensus sortant de la réunion qui était présidée par M. Trudeau il y a quelques jours à New York. Tout le monde était d'accord qu'il fallait avoir un processus politique. Il fallait avoir un consensus plus large. Il fallait avoir des investissements et une réponse à la situation humanitaire. Tout ça est nécessaire, et plus la sécurité. Toutes ces choses vont ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.